RCV 99, bonjour à tous. Nous sommes donc présents au Garage des Lillois pour les 15 ans de la Friki Family. Ça se trouve boulevard Carnot à Lille. Nous sommes en édition podcast aujourd'hui et nous avons l'honneur d'accueillir Sibarit qui vient de sortir de sa conférence Mythes et légendes sur le tatouage. Comment tu vas? Comment tu te sens? Super conférence d'ailleurs, je tiens à te le dire. Je crois qu'on te l'a déjà tout dit.
C'est clair.
Bah, merci beaucoup. Content de l'avoir fait et content d'avoir des retours aussi bons de vous et des gens qui étaient présents. Quoi. Déjà.
Rachel?
On va commencer avec les questions. Alors, comment as-tu appris cette pratique ancestrale avec un mentor ou alors en autodidacte?
En fait, ça fait plus de 25 ans que je m'intéresse au tatouage traditionnel et je me suis fait tatouer dans tous les pays que j'ai visités de façon traditionnelle. Et quand j'ai eu la chance de devenir tatoueur, je ne savais pas que j'allais devenir tatoueur. En gros, j'ai croisé un vieux pote à la conf de Bruxelles avec qui j'avais partagé des bons moments en Normandie, qui s'appelle toujours Mickey Bold d'ailleurs. Et c'est lui qui m'a proposé de me former. Un jour, il m'a dit « Écoute, ça c'est ta table de massage, ça c'est la tablette graphique, est-ce que tu veux travailler avec moi ?» Et voilà, ça a été mon apprentissage. Enfin, c'est-à-dire que plutôt que de faire du porte-à-porte avec mon book, moi j'avais pas de book, hein, je savais pas dessiner, j'étais juste vraiment, et encore maintenant, passionné par le tatouage ethnique, tribal, nordique. Et par contre, donc, j'avais beaucoup de bouquins et je connaissais les symboliques, donc on a travaillé d'abord là-dessus. Et étant donné que je m'étais fait tatouer de façon trad dans plein de pays, c'était une évidence de tatouer au handpok d'abord, donc les 10 premières années. Et là, j'ai commencé la machine il y a très peu de temps, allez, il y a 2-3 ans, pour pouvoir me permettre d'avoir des plus de capacités, plus de moyens pour faire des pièces plus grandes.
Ok, et tu peux, pour les novices qui nous écoutent, expliquer un peu ce que c'est le concept du handpok?
Le handpok, c'est tout simple, hein, c'est on prend une aiguille et on plonge dans l'encre et puis on vient tatouer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de machine, pas de moteur, c'est juste à la force du poignet. C'est vraiment de façon ancestrale, quoi. Voilà.
Et ça fait combien de temps maintenant que tu tatoues, du coup?
Ça va faire 11 ans.
11 ans,
et 11 ans au mois d'avril, ouais.
Et t'es situé où
Je suis situé à Roubaix, près de Lille.
Ok.
Dans un shop privé avec un copain. Okay. Qui n'a pas de nom pour le moment parce qu'on est en plein travaux. Bonjour Simon.
Et donc, les légendes que tu expliquais tantôt durant la conférence, est-ce que, je suppose qu'elles t'inspirent pour tes tatouages?
En vrai, c'est pas vraiment les légendes qui m'inspirent, c'est les motifs. Et j'essaie un maximum de respecter surtout le côté traditionnel et d'éviter de faire de ce qu'on appelle grossièrement de l'appropriation.
Ah bah justement, tu l'évoquais pendant la conférence, comment on fait pour pas tomber dans l'appropriation? Aujourd'hui, en plus, c'est quelque chose qui est assez tabou.
C'est pas tabou, mais c'est vrai que les gens ont une tendance à dire très rapidement, attention, c'est de l'appropriation. Ouais. Alors j'ai tendance à dire qu'on a chacun notre vision de l'appropriation, ce qui est vrai, c'est selon telle ou telle personne et selon aussi donc les origines. C'est-à-dire que pour nous, blancs, l'appropriation, c'est beaucoup plus simple, alors que quand on prend par exemple des Amazirs ou quand on prend des gens de différentes tribus, eux, ils vont se dire, bah, en fait, t'es gentil, mais t'es venu nous évangéliser, maintenant tu connais nos motifs et tu fais de la thune dans les tatouants. Est-ce que maintenant, ça serait pas de l'appropriation culturelle, quoi? Et c'est pour ça qu'en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est parce que, enfin, je vais être honnête, hein, je peux en parler à la radio, il n'y a pas de souci. Quand j'ai commencé à tatouer, je m'en foutais complètement. Voilà, je faisais du tatou, c'est-à-dire que un motif me plaisait, je le dessinais, je le retravaillais un petit peu, je le proposais en flash et je tatouais des gens, tu vois, je faisais pas attention de savoir si c'était des motifs de telle ou telle culture. Et un jour, il y a des gens qui sont venus me dire, bah, c'est bien gentil ce que tu fais, mais c'est de l'appropriation et t'es pas très gentil, on va dire, tu vois, je vais rester poli à la radio, quoi. Et du coup, ça m'a vraiment fait repenser ma façon de voir le tatou et de le construire, surtout mon tatouage. Et du coup, j'ai voyagé encore plus et j'ai rencontré encore plus de tatoueurs traditionnels, que ce soit à Bornéo, que ce soit, comme j'en parlais à la conférence, donc les Cognac par exemple. Et je sais que par exemple les tatoueurs de Bornéo ou enfin même donc les Mentawai, ils m'ont dit il n'y a pas de problème, hein, tu peux tatouer nos motifs tant que tu connais la symbolique, que tu ne mélanges pas. Donc ce que je fais, c'est quand j'ai un petit doute, j'envoie un message aux copains, parce que maintenant c'est devenu des copains, en disant est-ce que je peux tatouer ce type de motif là, est-ce que ça veut bien dire ça. Ouais, et puis de temps en temps, bah, tu vois, je mets une partie de la thune pour des assos de là-bas, comme ça, tu vois, je participe aussi à ce truc-là, quoi. Et à côté de ça, les cognacs, par exemple, ou même les inuits, mais jamais je fais leur motif. Parce que, si je prends l'exemple des cognacs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une tribu dans le Nagaland, dans le nord-est de l'Inde. Vu que c'est une tribu de coupeurs de tête, ce serait complètement incohérent de faire des motifs sur Pamela qui habite à Tourcoing, tu vois. Ce serait complètement
sauf si elle coupe des têtes.
Sauf si elle coupe des têtes, Pamela. C'est vachement inquiétant. Peut-être regarder ma voisine différemment, du coup.
Mais quand couper des têtes humaines, on parle bien de ça, parce que ouais, tu parlais aussi de ceux qui chassent le tigre et qui ramènent la tête du tigre et qui peuvent se faire tatouer le tigre dans le dos aussi.
Ouais, c'est les têtes humaines, hein, c'est ce qu'on appelle le headhunting, et okay. Qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de cultures tatou traditionnelles. C'est-à-dire que le headhunting, on le trouve à Bornéo, on le trouve chez les Cognac, on le trouve chez les Kalinga, mais c'est une culture, cette culture du headhunting a été stoppée net en partie à cause ou grâce. Ça, chacun voit midi à sa porte, de tout ce qui est évangélisme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivaient, des prêtres, des missionnaires, tu sais, qui arrivaient dans les tribus, et leur but, c'était d'arrêter ces pratiques qu'eux considéraient comme barbares. Il y en a qui ont laissé leur tête, d'ailleurs. Mais maintenant, ce qui est fou, je te dis, c'est que je suis allé dans le... Je ne sais pas si ça vous parle, il y a une très vieille tatoueuse qui s'appelle Apo Wang Od, qui a 109 ans. Et c'est la plus vieille combat. Elle a fait la couverture de Vogue. Enfin voilà, c'est bon, là on part dans un autre délire. Moi je piche pas trop, mais bon voilà. C'est fait la couverture de Vogue. Ok, pourquoi pas. Après si, parce que ça fait connaître leur culture, c'est pas mal quoi. Et mais sur la place du village, c'est hyper trad. Il y a une église. Okay. Moi quand je suis arrivé là-bas, dans le village de Montauk là sur l'île là, il y a une île au milieu du village. Pas enfin, une église pardon. Et wow, ok, je m'attendais pas à voir ça quoi. Dans un truc où... Ouais, je sais.
Sur l'île aussi, il y a une église au milieu du village.
Sur l'île aussi, il y a une grande église. Non, c'est surprenant de voir qu'en fait, la plupart des tatous et de la culture tatou, en fait, sont quand même... Enfin, les trucs trad liés au coupage de tête, au headhunting, sont voués à disparaître ou ont disparu. Ce qui est normal, en fait, en gros, c'est dans la logique des choses de se dire bah, une culture disparaît, c'est normal. Et chez les cognacs, ils m'ont dit... La culture, elle va disparaître, elle doit disparaître parce qu'on a en coupe plus des têtes. Donc ce serait complètement débile de continuer à se faire tatouer ces motifs-là, ce qui est vrai.
Des questions ?
Dans les légendes que tu as expliquées tantôt, est-ce que si tu devais en choisir une, ta préférée, tu choisirais laquelle ? Parce que c'était vraiment pertinent et du coup je me demandais ton avis sur
la question. Il y en a deux que j'aime bien, mais parce que c'est personnel, il y a la légende du Prout. Désolé, hein. Elle est
trop,
elle est hyper courte, elle me fait marrer, et c'est une légende qui est rigolote. Et si on parle sur un truc un peu plus sérieux, c'est la légende inuite, avec la naissance du soleil, mais je peux pas trop en parler à la radio, parce qu'elle est un peu touchy, mais...
Oui, j'avoue, avec la fin, où en fait elle s'envole à force de courir vite, celle qui est poursuivie par son frère.
C'est ça, ça devient le soleil, et lui la lune, et en fait, en gros, elle se cache de la lune en fait, à chaque fois, donc attends, vous regarderez le soleil et la lune de façon différente.
Ouais. Même si le fond est touchy, ouais, j'avoue que le coup de quand ils se croisent, c'est les éclipses.
Ouais,
ça vachement.
C'est ça. Et en fait, en gros, le
poétique. Ouais, c'est un peu poétique, quoi. Malgré le fond, vraiment.
Ce qui est poétique, c'est ça. C'est le. Ouais. C'est le fait qu'il y ait cette. Enfin, c'est de l'inceste, quoi, à la base. Mais ça crée la création et ça crée. Enfin, donc la création du soleil et de la lune et ça crée aussi le tatouage et les origines du tatouage.
Comment tu en es venu à faire des conférences sur toutes ces légendes ? Parce qu'en plus, tu es super à l'aise. T'as même pas de notes. Tu nous racontes ça. En fait, on boit tes paroles comme si c'était un pote qui nous racontait plein d'histoires. Enfin, je sais pas comment vous l'avez vécu.
Merci, hein, clairement.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. J'ai tout inventé, en fait.
Non, mais c'est à force de voyager. Un jour, tu t'es dit, j'ai envie de partager ça autrement que juste avec les tatous.
Non. Enfin, si tu veux... Comme j'expliquais au début de la conférence, il y a 5 ans maintenant, il y a une nana qui m'a contacté. Ça, c'est une histoire qui est rigolote. Je travaillais à Rouen, du coup. Elle a vu mon taf sur la vitrine. Elle m'a envoyé un message. Elle me dit, écoute, demain, je serai à 14h dans un bar à côté, là. J'aimerais bien te rencontrer. Mais c'est tout. Voilà, pas d'autres messages. Donc, du coup, moi, je suis curieux. Hein, et je fais, allez, ça va être marrant, signé Sarah, quoi. Je fais, allez, j'y vais, et puis on va voir, c'est peut-être pour un rendez-vous tatou, peut-être qu'elle est complètement cintrée, je sais pas, on va voir. Et j'arrive, et là, je vois une nana, costard, machin, avec des piles de dossiers sur la table, qui me dit, bah voilà, je suis doctorante, et je voudrais écrire un bouquin avec toi. Mais je la connaissais pas, hein. Elle me dit, mais j'ai vu tes tatous, et je sens qu'on peut faire un truc. Et du coup, on a fait une thèse sur le tatouage et sur l'appropriation culturelle dans le tatouage ethnique chez les Occidentaux. Ouais, ouais. Donc le bouquin, il existe. Il est très compliqué à lire. Voilà. Je dis, enfin, même si. Non, mais c'est vrai. Même s'il est. Enfin, donc, j'aime ce livre parce qu'on y a passé quand même 2 ans. Il est très compliqué à lire. Voilà. Parce que c'est une thèse. Voilà. Et du coup. Donc je le renie absolument pas, hein, et j'ai adoré vraiment travailler ça, mais c'est pas exactement ce que je voulais obtenir. Moi, ce que je voulais obtenir, c'est quelque chose vraiment que les gens puissent lire très facilement. Et c'est-à-dire, moi, j'ai tendance à dire aux copains qui ont acheté le bouquin là, c'est laissez-le aux toilettes. Un caca, une légende. Voilà. Non mais c'est vrai. En fait, en gros, enfin, une légende, ça prend 3 minutes à lire. C'est rigolo, c'est simple à lire. Et je voulais vraiment quelque chose d'agréable à lire et que les gens se souviennent des légendes, en sachant que là dans la conférence c'est vraiment que de la légende, donc c'est raconté très naturellement. Dans le livre c'est plus poussé parce que y a les outils utilisés avec le nom des outils, d'où ils proviennent, quel type d'arbre ou d'essence d'arbre a été utilisé pour la sève qui va se servir pour la suie, etc., etc. Là du coup c'est beaucoup plus travaillé. La conférence, si tu veux, ça m'a permis d'en parler, de faire de la com de mon bouquin, clairement, hein, ça a servi à ça aussi. Et la première fois que je l'ai faite, c'était à Barjol, au festival de tatouage de Barjol, où on m'a proposé de faire ça. J'ai dit, allez, pourquoi pas. On ne peut pas dire que je sois un aficionado de ce genre de truc, mais mes deux parents sont juristes et eux sont habitués à parler, donc ils m'ont donné plein de conseils justement pour parler devant le public, quoi. Simplement.
Et les légendes, à chaque fois que tu voyageais, donc c'est les personnes sur place qui te les racontaient ?
Non, alors il y en a qui m'ont raconté des légendes, notamment en Inde, mais la plupart c'est dans les bouquins que je collectionne que je les ai trouvés. Okay. Donc c'est des sources que je trouve pas sur internet parce que j'ai toujours tendance, même s'il y a des sites spécialisés, à des articles spécialisés, moi je préfère me fier aux bouquins. Donc il n'y a aucune légende que j'ai trouvée sur Instagram ou Facebook, sur le chat. Non. Non, j'ai fait vraiment des grosses recherches et je te dis, pendant 1 an et demi, j'ai traduit des livres et après j'ai fait des sélections et j'ai essayé de trouver ce qui pouvait m'intéresser le plus et en essayant de faire des recroisements et des recoupements dans d'autres bouquins pour être sûr que c'était bien les bonnes légendes, quoi. Et en contactant les tatoueurs de là-bas en disant, est-ce que ça te paraît bien, ils me disent oui, bien sûr, ou alors non, mais pas du tout, quoi. C'est pas du tout ça. Donc j'ai recoupé pour avoir vraiment les bonnes sources.
Il y a beaucoup de similitudes entre les légendes.
Oui, c'est vrai.
Est-ce que tu as cherché à les expliquer ? Est-ce que tu as trouvé des réponses ?
C'est-à-dire ?
Pourquoi tant de coïncidences entre des civilisations parfois éloignées, aussi bien dans le temps que géographiquement ?
Alors, j'en parlais, c'est marrant que tu me dises ça, parce que j'en parlais juste après avec Marlou de Galles, qui va intervenir demain également en conférence sur le tatouage. Et il me disait justement, c'est marrant parce qu'on voit le lien, et est-ce que tu sais en fait d'où vient le lien ? Et la réponse est non, je ne sais pas, parce que je n'ai pas j'ai pas eu les outils et la matière pour expliquer pourquoi est-ce qu'on trouve ce rapport, par exemple, tu sais, aux animaux qui se peignent et qui sont à l'origine de ces choses-là. Je ne sais pas exactement parce que, pareil, donc j'ai pas la chronologie de ces légendes-là. Donc je ne sais pas si ça s'est passé en 1900, si ça s'est passé plus tôt. J'imagine qu'après, il y a eu quand même des mouvements de population qui ont fait, peut-être ça s'est transmis. Je ne peux pas le dire. Mais par exemple, je sais que sur les îles, il y a. Enfin, tu sais, donc en Polynésie, par exemple, ou en Nouvelle-Zélande, etc., il y a quand même eu des grands mouvements de population. Où les gens, c'était des navigateurs, et allaient d'une île à l'autre, en sachant qu'il y a d'autres légendes encore qui parlent de ça et qui se regroupent. C'est-à-dire que j'ai pris des légendes qui pouvaient se recouper un petit peu, mais il y en a qui se ressemblent vraiment très fort, quoi.
Ouais, les légendes qui se ressemblent le plus, ouais, c'est celle du corbeau et du faisan et de la panthère et l'ours, par exemple.
L'ours et le léopard, ouais, et après donc le corbeau et l'iguane, après, avec les deux hommes là, qui se transforment en animaux à l'inverse. Ouais,
ouais.
Ouais, ouais. Et ça y ressemble fortement, ouais.
Et donc, tu as écrit un livre sur les mythes et légendes, du coup. Ce livre, on peut le trouver où ?
Du coup, alors, vu que c'est que de l'auto-édition, attends, en gros, c'est moi qui ai tout fait, parce que là, je vais pas faire de la com pour l'Armatan, qui est une maison d'édition qui nous ont bien eu. Ça comme ça, parce qu'en fait, on a vendu. Après, on le savait, hein, qu'on avait un contrat, c'était à partir de 500 livres, on touche 5% sur la vente, on en a vendu 450. C'est énorme, enfin, c'est vraiment bien, quoi, tu vois. Et en fait, sachant qu'en plus, c'était pour une asso, que moi, j'ai fait le premier livre, moi, je voulais que la thune, elle aille à une association qui s'appelle Suku Mentawai, qui aide justement les peuples Mentawai à récupérer cette culture que le gouvernement indonésien essaie de leur supprimer. Parce que c'est pas. Avoir des chamans dans une île, c'est pas terrible. Du coup, on n'a rien eu. Et je voulais pas recommencer à faire ça, donc je me suis dit, je vais tout faire de A à Z. Donc j'ai fait relire le livre à plein de copains et de copines qui sont profs, qui sont voilà, enfin c'est des gens un peu carrés. Mon père là, lui, m'a dit qu'il y avait encore des fautes d'orthographe. C'était la 20e fois que les gens le relisent, c'est bon quoi, je fais des corrections. Il arrive un moment, je me suis dit bon, c'est maintenant qu'il faut qu'il sorte, parce que sinon je pourrais le refaire encore 10, 15, 16 fois. Et donc c'est de l'auto-édition, pure et dure.
Okay.
Et donc si les gens en veulent, faut me contacter sur Insta.
Ok.
Voilà. Et j'ai fait une première précommande, j'en ai vendu 170. Ce qui est très cool.
C'est cool.
Ouais, ouais, grave. Et là, du coup, j'en avais recommandé pour ici. Là, j'en ai déjà quasiment plus en une journée, quoi.
Beau travail. Merci pour tout, Sibarit.
Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci pour ce moment.
Et puis, la conférence, on va la retrouver aussi en podcast dans quelques temps. En même temps que cette interview. Donc, si vous n'avez pas écouté la conférence, on vous invite à l'écouter. Et si vous avez écouté la conférence, vous allez comprendre un petit peu plus l'interview. Merci.
Merci à vous.